France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Nous sommes le jeudi 28 mai. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les annonces très attendues de la phase 2 du déconfinement. Édouard Philippe dévoilera cet après-midi le mode d'emploi de notre vie à partir du 2 juin. Nous verrons ce qui pourrait changer dès le début du journal. Les autres titres, Agnès.
Encore trop de dividendes et d'écarts de salaire chez Carrefour. Le gouvernement algérien froissé par la diffusion de deux documentaires français. Les migrants qui continuent de tenter de traverser la Manche. Et puis, fausse ambiance pour une rencontre quand la télé habille d'une bande sonore les matchs de foot à huis clos.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Ça fait deux mois que d'autres parlent pour elle et qu'elle garde le silence. Finalement, elle a décidé de conduire la liste La République En Marche à Paris pour le second tour des municipales et elle reprend la parole. Ce matin, pour la première fois à la radio, Agnès Buzyn sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, nous recevrons tous les deux dans le grand entretien de la matinale le député européen Jordan Bardella, il est également vice-président du Rassemblement National. Vous aurez la parole. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Les tout derniers arbitrages seront pris ce matin à l'Élysée lors d'un conseil de défense. Les questions sont aussi nombreuses que délicates. Pourra-t-on franchir la limite des 100 km? Collèges et lycées vont-ils rouvrir? Quid des bars, des restaurants, des parcs et des jardins, des piscines et des salles de sport? Toutes les régions vont-elles passer au vert? Le gouvernement reste sur une ligne prudence, vigilance, progressivité. Mais l'idée, Yael Gauz, est bien de desserrer les taux.
Déconfinement, saison 2, la première, début mai, était plus clivante.
La carte de France est très claire, le pays est divisé en deux.
Les verts et les rouges, distinction qui devrait devenir marginale, explique un conseiller à l'Élysée, car partout la situation s'améliore. Une nouvelle étape plus facile à gérer pour le couple exécutif. Le 11 mai était un pari politique et économique. 17 jours après, hormis quelques clusters, plus rien ne s'oppose à une accélération de ce déconfinement. Si quelques taches rouges subsistent en Île-de-France, indique l'Élysée, on va quand même desserrer la contrainte. Mais pas au point de parler de retour à la normale, pas encore, tempère Matignon. Tout est réversible si l'épidémie devait reprendre. Édouard Philippe préfère évoquer une nouvelle phase de libération, un desserrement du carcan mérité grâce au civisme des Français. Plus vous respectez les règles et plus vous gagnez de liberté, tel est le contrat qu'il rappellera cet après-midi. D'ici là, le lobbying ne sert à rien. Aux appels du pied insistants de Jean-Michel Aulas pour la reprise de la Ligue 1, Matignon répond en langage fleuri. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Édouard Philippe déconfiné à la sauce Chirac.
Et c'est donc à partir de 17h qu'Édouard Philippe, entouré notamment d'Olivier Véran et de Jean-Michel Blanquer, détaillera la phase 2 du déconfinement qui entrera en vigueur au lendemain du lundi de Pentecôte, c'est-à-dire le mardi 2 juin. Un déconfinement d'autant plus attendu que les chiffres sont bons. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Ils étaient hier soir 1501, soit 54 de moins que la veille. Depuis début mars, le virus a tué 28 596 personnes, dont près de la moitié résidaient en EHPAD. Et pour obtenir le feu vert des autorités, le secteur de la restauration a mis au point un code de bonne conduite, un document de 10 pages détaillant toutes les mesures sanitaires à prendre, du mètre de distance entre les tables à l'ardoise qui remplacera les menus en passant par des buffets repensés. En Corse, le village de Saint-Florent espère que les touristes seront très vite de retour. Le tourisme représente 30% du PIB de l'île. C'est le long format de ces 7 heures et il est signé Cyril Gradiani.
Depuis 44 ans, Michel Yanco est aux commandes de son hôtel-restaurant La Roya et sa vue imprenable sur le golfe de Saint-Florent. Mais cette année,
on n'a jamais connu ça, non, jamais.
Les réservations se font attendre.
Je pensais que dès l'annonce du déconfinement, tiens, là on aura des appels et tout, alors que non, très très peu et c'est même ça devient inquiétant.
Le seul bruit ambiant, ce sont les gros travaux dans l'hôtel interrompus pendant la crise. Tout a été repensé pour respecter les consignes sanitaires, les distances sociales. Dans une dizaine de jours, Michel Yanco pourra rouvrir en toute sécurité et il conserve son optimisme.
Si l'année 2020 est une année blanche, je ne gagne rien et je ne paie rien, j'arrive à payer tous mes employés, je suis très heureux. Mais chaque jour qui passe, nous perdons des clients. Parce que c'est maintenant, jusqu'au 10-15 juin, où les gens prennent les décisions pour les vacances d'été et font leurs réservations.
Sur le port de Saint-Florent, sa succession de bars et restaurants, rideaux baissés, suspendus aux annonces d'Edouard Philippe. Mais peu de doute, la réouverture est proche. Alors à la gaffe, le restaurant de Yann Le Skavarek, on est dans les starting blocks.
On a fait, nous, un plan de salle avec les distanciations sociales de 1 mètre entre chaque dossier de chaise. On est tous impatients de pouvoir recommencer notre métier. On a fermé en décembre, donc là on arrive en juin, ça fait quand même une grosse fermeture, remettre l'outil en fonctionnement pas à pas pour éventuellement la saison qui arrive et qui j'espère sera bonne, mais en tout cas bon, il y a des raisons qu'elle soit mauvaise, mais moi je préfère me dire qu'elle va être bonne et d'essayer d'y croire et de rester positif.
Et ils espèrent notamment que les touristes n'auront pas été effrayés par le fameux Green Pass, le test négatif qui serait indispensable pour venir sur l'île et que réclame Gilles Simeone.
Un Green Pass qui n'a pas été validé par les autorités à l'heure qu'il est et qui n'est donc pas nécessaire pour se rendre en Corse. C'était un reportage de Cyril Gradiani. Elle accompagnera cette phase 2 du déconfinement. L'appli Stop Covid a été votée hier par les députés, puis par les sénateurs. Elle devrait fonctionner à partir de mardi prochain.
Il est 7h06, Agnès Carrefour, dans le collimateur de l'ONG Oxfam.
Le groupe a certes fait des efforts en divisant par deux les dividendes qui seront versés aux actionnaires, mais l'ONG estime que les grandes entreprises comme Carrefour devraient partager plus équitablement leurs richesses, et en particulier avec celles et ceux qui ont été en première ligne durant cette crise. Delphine Simon.
Oxfam pointe des écarts de salaire vertigineux, les plus forts parmi les entreprises du CAC 40. Un deux poids, deux mesures difficile à défendre dans une crise où les salariés de la grande distribution ont été en première ligne. Pauline Leclerc, sa porte-parole.
Depuis 10 ans, Carrefour est championne des écarts de salaire au sein du CAC 40. Le PDG de Carrefour, même en ayant réduit de 25% sa rémunération fixe, il gagne toujours 410 fois plus que le salarié moyen au sein de son entreprise.
Difficile de ne pas faire le lien avec la prime de 1000 euros promise aux héros de la première ligne, mais versée au prorata des heures travaillées, elle ne concernera pas tout le monde. Or, si elle était versée à l'ensemble des 20 000 caissières du groupe, cela représenterait à peine 11% des dividendes de Carrefour, des dividendes réduits, mais bel et bien maintenu, dit-elle.
C'est tout de même 179 millions d'euros de dividendes qui seront versés. Et à ça s'ajoute cette prime de 1000 euros dont on comprend qu'elle est en train de se réduire à peau de chagrin. La crise du coronavirus, la crise économique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pointe l'urgence de réviser ses choix stratégiques.
Oxfam demande au gouvernement de rectifier le tir dans le futur plan de relance et de prendre des mesures contraignantes pour encadrer les dividendes.
La région Bretagne a, elle, décidé de verser une prime de 500 euros à tous les stagiaires du secteur paramédical qui ont travaillé durant cette crise. Cela concerne 1700 personnes en Bretagne et c'est une information de nos confrères de France Bleu Armorique. La politique reprend ses droits à Paris avec le mea culpa d'Agnès Buzyn qui revient ce matin dans le Figaro sur l'expression malheureuse de mascarade employée pour qualifier le premier tour des municipales. Agnès Buzyn qui doit mener campagne sous protection. Karine Bécard.
Agnès Buzyn réussira-t-elle à atténuer l'image abîmée que les Parisiens ont désormais d'elle ? L'ancienne ministre de la Santé fait aujourd'hui partie des personnalités politiques les plus rejetées par les Français. Donc sa campagne s'annonce compliquée parce qu'avant de pouvoir s'exprimer sur son programme, sur ses idées, elle devra commencer d'abord par se justifier. Se justifier sur les propos inappropriés qu'elle a tenus juste après le premier tour, le 17 mars dernier. Et puis elle devra s'expliquer aussi sur ce qu'elle a fait ou pas fait en tant que ministre de la Santé quand a débuté la crise sanitaire. Donc cette candidate d'apparence sensible va devoir se montrer sacrément solide. Face à l'extérieur en tout cas, mais probablement face à l'intérieur également, la preuve avec ce premier choix stratégique d'avoir laissé l'une de ses têtes de liste s'allier à une candidate de la droite. Certains élus parisiens macronistes menacent déjà de quitter La République En Marche. Donc Agnès Buzyn est de retour depuis seulement 2 jours et il va falloir qu'elle tienne pendant 4 semaines.
Agnès Buzyn qui sera l'invité de Léa Salamé à 8h10 sur Inter. Le harcèlement de rue bientôt jugé en comparution immédiate. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme lance aujourd'hui le plan Angela, avec également un réseau de lieux sûrs labellisés comme des bars ou des restaurants où les femmes suivies dans la rue pourront se réfugier et demander Angela, un mot de code pour une mise à l'abri.
Il est 7h09, les documentaires de la discorde entre la France et l'Algérie.
Alger a rappelé hier son ambassadeur à Paris après la diffusion sur France 5 et LCP de 2 documentaires sur l'Algérie et sur le mouvement de contestation Irak. Franck Mathevon.
des attaques contre le peuple algérien et ses institutions. C'est ainsi que le gouvernement algérien qualifie les programmes récurrents diffusés sur les télés publiques françaises. Le premier documentaire visé, Algérie, les promesses de l'aube, a déjà été diffusé l'an dernier. Il est consacré au premier mois du Irak. Le second film, Algérie, mon amour, inédit jusqu'à mardi soir sur France 5, donne la parole à 5 jeunes Algériens.
Je me sens vraiment étouffé dans le pays dans lequel je vis. Pourtant, c'est un pays que j'aime, mais je me sens étouffé.
Des propos libres, critiques, émouvants aussi, le portrait d'une jeunesse désenchantée, contemporaine du Irak, plus qu'un film sur le mouvement de contestation en tant que tel. Algérie, mon amour, a suscité un débat vif sur les réseaux sociaux. Des Algériens disent ne pas se reconnaître dans ce film qui aborde aussi les questions taboues du sexe ou de l'alcool. Le régime algérien y est régulièrement pris pour cible.
C'est un régime totalitaire, en fait. C'est un système que je peux qualifier comme étant mafieux.
Dans son communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce les intentions malveillantes de certains milieux sous le prétexte de la liberté d'expression.
Le ton monte aussi entre la Chine et les États-Unis alors que le Parlement chinois doit adopter dans la journée une loi sur la sécurité à Hong Kong qui va lui permettre de reprendre la main sur ce territoire autonome. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Confinement ou pas, les tentatives de traversée de la Manche n'ont jamais cessé. Des dizaines de migrants tentent régulièrement de gagner le Royaume-Uni, un phénomène renforcé même par les mesures prises dans la lutte contre le coronavirus. Rémi Brancato.
Le dernier gros sauvetage, c'était il y a une semaine pour la gendarmerie maritime, peu après 4 heures du matin au large de Dan, dans le Pas-de-Calais.
Ils étaient une vingtaine à bord d'une embarcation. Leur embarcation était en panne moteur.
Parmi eux, 2 enfants et 2 bébés. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a dénombré une centaine de sauvetages depuis le début de l'année et un pic depuis mi-mars, explique Marie Aversan, sa porte-parole adjointe.
Ces migrants prennent de gros risques en prenant la mer. Le détroit du Pas-de-Calais notamment est une zone exposée avec une forte concentration du trafic maritime. La température de l'eau est également très basse, ce qui diminue considérablement la durée de survie d'une personne tombée à la mer.
Près de 1300 personnes ont été secourues côté français, mais pour François Guénoc de l'association L'Auberge des Migrants à Calais, ils sont encore plus nombreux à avoir réussi la traversée grâce à la météo.
Avec des temps calmes, un peu brumeux, très peu de vagues, c'est principalement ça qui a tenté les migrants et pour certains qui leur a permis de réussir.
D'autant qu'avec les mesures de confinement, la mer est devenue le seul horizon.
Le trafic de camions a beaucoup diminué, c'est moins d'opportunités pour les personnes qui cherchent à passer, en particulier les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont à Calais depuis quelques fois des mois pour tenter leur chance individuellement.
Alors pour éviter les drames en mer, l'association suggère donc d'examiner les demandes d'asile au Royaume-Uni directement sur le sol français.
Reportage de Rémi Brancato. En bref encore, SpaceX devra attendre. Le lancement de la fusée américaine qui devait avoir lieu hier soir a été reporté en raison de mauvaises conditions météo en Floride. Nouvelle tentative samedi.
Et enfin Agnès, une épineuse question qui dépasse le monde du foot.
Alors que l'Allemagne et après l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie pourraient annoncer aujourd'hui la reprise de son championnat. Les matchs bien sûr se déroulent à huis clos, mais pour que ce soit plus vivant, une télévision allemande a rajouté de l'ambiance durant la diffusion de la rencontre. Alors trucage ou habillage, la question mérite d'être posée à Jérôme Val.
Des chants, des acclamations, des sifflet, voici ce qu'ont pu entendre les téléspectateurs allemands et français lors de cette rencontre entre Dortmund et le Bayern. Un match qui s'est bien sûr déroulé sans public, écoutez la véritable ambiance dans le stade de Dortmund. Une bande sonore avait été enregistrée avant la rencontre et mixée en direct par un ingénieur du son. L'illusion a parfaitement fonctionné, même pour Jean-Jacques Amselem, le réalisateur référence pour la diffusion de matchs de foot en France, travaille depuis plus de 30 ans pour Canal+.
Au départ, ça m'a un peu surpris, mais disons que ça agrémente un peu la mise en image.
Cette fausse ambiance est une réussite, expliquent les diffuseurs, pour permettre de profiter au mieux du spectacle, peut-être pour Jean-Jacques Amselem, mais à condition de ne pas en abuser.
Il faut doser, il faut que ce soit une petite ambiance, il ne faut pas ridiculiser et travestir ce huis clos quand on fait un dégagement, un plan très large. Bon, ben on voit que les tribunes sont complètement vides. Donc, ça ne sert à rien de travestir la réalité.
Mais attention au choix de la bande-son. Lors d'un match en Allemagne, il y a 10 jours, des insultes contre l'équipe adverse avaient été diffusées à la télévision.
Alors, trucage ou habillage, Nicolas?
Le diable est dans les détails, en tout cas. Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.